Imaginons un instant la scène. On se promène tranquillement dans la nature et bam, on tombe nez à nez avec un insecte un peu flippant, le vinaigrier.
Ah ouais, le fameux Mastigoproctus giganteus. Pas très très mignon comme bestiole.
Bah carrément pas, non? Et le truc fou, c'est que s'il se sent menacé, il va pas piquer. Il pivote et il projette un jet de gouttelettes composé à 85% d'acide éthanoïque pur.
Une vraie petite arme chimique portable, quoi.
C'est ça. Et à une échelle encore plus petite, on a la fourmi avec son acide formique qui brûle carrément la peau de ses prédateurs.
Et bien justement, ces petits mécanismes de défense, ça soulève une question qui va bien au-delà de la biologie des insectes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend une substance chimiquement agressive?
Qu'est-ce qui fait qu'un truc est vraiment acide, au fond?
Exactement. Et c'est le point de départ parfait pour notre analyse approfondie d'aujourd'hui. On va faire la synthèse de plusieurs cours de chimie des solutions de niveau terminal, mais on va aussi croiser ça avec des exemples biologiques.
Parce que notre mission, c'est de décoder le langage invisible d'une toute petite particule, le proton. C'est lui qui orchestre tout, de la brûlure de la fourmi jusqu'à la régulation de notre propre sang.
Ouais, c'est fascinant. Tout est lié à ce fameux proton.
Alors, décortiquons tout ça. Pour comprendre comment le jet du vinaigrier peut brûler un prédateur, il faut zoomer à l'échelle atomique. Qu'est-ce qui se passe physiquement dans cette molécule pour qu'elle devienne une arme?
Tout commence par un concept introduit dans les années 30 par Linus Pauling, l'électronégativité.
Le chimiste qui a eu le prix Nobel, c'est ça, hein?
Ouais, prix Nobel en 54, et autre fait. En gros, l'électronégativité, c'est la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons quand il est lié à un autre atome.
D'accord, donc c'est une histoire de force d'attraction?
C'est ça. Prenez la molécule d'acide éthanoïque du vinaigrier. À un bout, il y a un atome d'oxygène lié à un atome d'hydrogène. Sauf que l'oxygène, c'est un énorme glouton.
Il garde tout pour lui, quoi.
Exactement. Il tire la couverture à lui. Il attire presque tous les électrons de la liaison de son côté.
Donc le pauvre atome d'hydrogène, il se retrouve complètement à nu, dépouillé de son électron. Ça doit rendre la liaison hyper instable, non?
C'est le mot. On dit que la liaison est polarisée, et très fragile, ou labile. Et c'est ça qui explique la définition moderne de l'acidité, celle de Johannes Brønsted.
Ah oui, la fameuse théorie de Brønsted qu'on voit au lycée.
Voilà. Pour Brønsted, un acide, c'est juste une espèce chimique capable d'éjecter cet atome d'hydrogène, dépouillé. Et un hydrogène sans son électron...
C'est juste un proton, le fameux H+.
C'est ça. Et à l'inverse, une base, c'est une molécule qui est capable de capter ce proton.
En fait, c'est littéralement un jeu de la patate chaude subatomique. L'acide a cette patate brûlante, le proton, et il la longe de toutes ses forces.
C'est une super image. Et la base, de l'autre côté, elle a l'équipement pour l'attraper. Souvent des doublés d'électrons libres.
C'est génial. Mais j'imagine que le proton ne reste pas à flotter dans l'air tout seul.
Ah ben non, surtout pas. Un ion H+, tout seul dans l'eau, c'est une aberration. C'est beaucoup trop réactif.
Il lui faut un réceptacle immédiatement.
Dès qu'un acide fort lâche son proton, bam, il est tapé par une molécule d'eau qui passe par là. Et cette molécule d'eau, H2O, elle se transforme en ion oxonium H3O+.
D'accord, donc c'est ce H3O+, qui porte vraiment l'acidité. Mais attendez, si l'acide lance le proton et que c'est l'eau qui le rattrape, l'eau se comporte comme une base, ici.
Tout à fait.
Mais j'ai toujours entendu dire que l'eau pouvait aussi être un acide. Comment c'est possible de jouer dans les deux équipes?
C'est la double vie de l'eau. On appelle ça une espèce d'amphotère. Face à un acide, elle agit comme une base et devient H3O+. Mais face à une base puissante, c'est l'inverse.
Elle sacrifie un de ses propres protons.
Exactement. Elle lâche un proton et devient un ion hydroxyde, le fameux HO1.
Mais si je pousse le truc, ça veut dire que dans un simple verre d'eau, posé là sur la table, les molécules d'eau jouent à la patate chaude entre elles en permanence?
Théoriquement, oui. C'est l'autoprotolyse de l'eau. Une molécule agit comme acide, l'autre comme base.
Mais alors, pourquoi mon verre d'eau n'est pas en train de bouillir ou de pétiller avec toutes ces réactions?
Parce que c'est statistiquement rarissime. La constante d'équilibre, le fameux KE, il vaut 10-14 à 25 degrés.
10-14, c'est minuscule.
C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça donne des concentrations de l'ordre de 10-7 mol par litre. Donc oui, ça bouge, mais c'est imperceptible.
Ouais, enfin, manipuler des 10-7 tous les jours pour faire des calculs, c'est un peu un cauchemar mathématique. C'est pour ça qu'on a inventé le pH, non?
Absolument. C'est Søren Sørensen, en 1909, qui a trouvé l'astuce. Il bossait dans une brasserie.
Ah, pour la bière. Raison de plus pour s'y intéresser.
Voilà. Il étudiait des processus biologiques et il en avait marre de ces puissances de 10 interminables. Alors il a utilisé le logarithme décimal.
Le fameux pH égale moins log H3O+.
C'est ça. Le log permet de tasser les variations géantes et le signe moins permet d'avoir des chiffres positifs. C'est pour ça que la neutralité de l'eau pure tombe pile sur 7.
Sauf qu'il y a un piège énorme avec ça. Quand on lit une échelle de 1 à 14, on a l'impression que c'est linéaire. Mais c'est plus comme l'échelle de Richter pour les séismes, non ?
C'est une excellente comparaison. Ce n'est pas du tout linéaire.
Un séisme de force 6, c'est pas juste un peu plus fort qu'un force 5. C'est une libération d'énergie colossale en comparaison.
Pareil pour le pH. Si on passe d'un pH de 6 à un pH de 5, la concentration en protons n'augmente pas d'un cran. Elle est multipliée par 10.
Et notre suc gastrique dans l'estomac qui est à pH 2.
Bah, faites le calcul. 7 moins 2, ça fait 5. 10 puissance 5, on parle d'une acidité 100 000 fois plus forte dans votre estomac que dans un verre d'eau.
100 000 fois ? Purée, c'est pour ça qu'on digère la viande. Et le vinaigrier utilise cette même concentration extrême.
C'est ça.
Mais du coup, ça soulève une autre question. Si je mets la même quantité d'acide chlorhydrique et d'acide du vinaigrier dans de l'eau, j'aurai pas le même pH. Pourquoi ?
Parce que tous les acides n'ont pas la même force de conviction, si on veut. C'est la différence entre un acide fort et un acide faible.
L'acide fort lance son proton plus fort.
C'est plutôt qu'il ne se pose pas de questions. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. La réaction est totale. Toutes les molécules, 100% d'entre elles, lâchent leur proton dans l'eau. C'est un aller simple.
D'où la flèche unique dans les équations bilan au lycée.
Exactement. Mais l'acide éthanoïque du vinaigré, c'est un acide faible. Seule une toute petite partie des molécules accepte de lâcher son proton.
En fait, c'est comme un bras de fer chimique. D'un côté, l'acide faible essaye de se débarrasser du proton, et de l'autre, sa base conjuguée essaye de le récupérer tout de suite.
C'est tout à fait ça. Et vu que les deux forces s'équilibrent, ça finit par un match nul permanent, un état d'équilibre.
Et c'est là qu'intervient la fameuse double flèche. Le fameux Ka, la constante d'acidité.
Oui, le pKa et surtout le pKa. Chaque couple acide-base a son pKa propre. C'est un peu sa carte d'identité. Plus le pKa est petit, plus l'acide gagne le bras de fer et impose sa loi.
Et ce qui est dingue, c'est que ce pKa, on peut littéralement le voir de nos propres yeux dans la nature, avec les diagrammes de prédominance.
Ah oui, des indicateurs colorés naturels. C'est magnifique. En gros, on compare le pH du milieu avec le pKa de la molécule. Si le pH est plus petit, c'est la forme acide qui gagne.
Et si le pH monte au-dessus du pKa, c'est la forme basique qui prend le relais.
Et beaucoup de molécules organiques changent de forme 3D quand elles perdent ou gagnent ce proton, ce qui change la façon dont elles absorbent la lumière.
C'est l'histoire des hortensias, non ? Ou du jus de chou rouge ? Dans un sol acide, les hortensias sont bleus, mais si le sol devient basique, il vire au rose vif.
Exactement. Le sol impose son pH, la fleur réagit selon son pKa. Mais bon, parfois ces équilibres ont des conséquences beaucoup moins poétiques.
Ah, vous parlez de l'acidification des océans. C'est vrai que c'est le même principe chimique, mais à l'échelle planétaire.
Oui, c'est une mécanique implacable. Avec l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, il y a de plus en plus de dioxyde de carbone qui se dissout dans la mer.
Et le CO2 réagit avec l'eau pour faire de l'acide carbonique, H2CO3.
C'est ça. Et cet acide faible va relâcher des protons dans l'océan, ce qui fait chuter le pH marin.
Mais concrètement, en quoi ça détruit la coquille des petits organismes marins comme les ptéropodes ? Les coquilles, c'est du calcaire, du carbonate de calcium.
Eh bien, le problème, c'est que les ions carbonate sont la base du couple. Les protons libérés par l'acide carbonique adorent ces ions carbonate. Ils se jettent dessus.
Donc, ils veulent les briques de construction des animaux marins.
Pire que ça. Si l'eau devient trop acide, l'équilibre chimique s'inverse. L'eau va carrément arracher les ions carbonate directement sur les coquilles existantes pour neutraliser l'acidité.
C'est un truc de fou. La coquille se dissout de son vivant, elle devient transparente et l'animal meurt. Tout ça à cause d'une petite variation de pH.
Voilà. Et si on applique cette même sensibilité au corps humain, ça donne vertige.
Ah bah c'est clair. Le sang dans nos artères, il doit rester à un pH de 7,4 environ. Si on dévie de quelques dixièmes, c'est le coma direct.
Ou la mort, oui.
Mais du coup, quand on fait un effort physique intense, genre un gros sprint, nos muscles produisent plein d'acide lactique, cet acide relâche une tonne de protons dans le sang, pourquoi on ne meurt pas sur le coup ?
Bah, heureusement, on a ce qu'on appelle des amortisseurs chimiques, des solutions tampons.
Les fameux tampons, le truc qui encaisse les chocs de pH, comment ça marche exactement ?
C'est un mélange entre un acide faible et sa base conjuguée en quantité à peu près égale. La loi qui régit ça, c'est l'équation de Henderson-Hassel-Balch, qui relie le pH et le pKa.
Ouais, mais physiquement, l'équation c'est des maths, ça n'arrête pas un afflux de protons. Quel est le bouclier ?
C'est le principe de Le Chatelier. Dans notre sang, le tampon principal, c'est le couple CO2 dissous et ion hydrogénocarbonate, HCO3-. L'ion HCO3-, c'est la base, il patrouille.
Donc l'acide lactique arrive avec ses gros sabots et ses protons agressifs.
Et bam, la base du tampon saute dessus. Elle capture les protons excédentaires et se transforme en acide carbonique qui se décompose hyper vite en eau et en CO2.
Ouf, l'invasion est neutralisée. Mais attendez, il y a un bloc dans le système là.
Hein? Lequel?
Si la base se sacrifie pour devenir du CO2, en plein sprint, je produis déjà énormément de CO2. Si mon sang en fabrique encore plus, l'équilibre va craquer, non?
Vous avez complètement raison. C'est là que la chimie fait appel à la mécanique du corps. L'hémoglobine, dans les globules rouges, joue le rôle de camion poubelle.
Elle évacue le CO2 en trop?
C'est ça. Au niveau des muscles, elle s'accroche à ce CO2 excédentaire. Ça empêche le pH de chuter. Ensuite, elle voyage jusqu'aux poumons. Et là, la respiration mécanique prend le relais.
On l'expire, tout simplement.
Exactement. Vos poumons crachent le gaz hors du corps.
Purée, c'est une chorégraphie dingue. La chimie du sang capture l'acide, le change en gaz et la respiration mécanique l'évacue. Sans nos poumons, l'équation chimique s'effondrerait.
On s'intoxiquerait avec nos propres acides, ouais. Et maintenir ce 7,4, c'est pas juste pour fluidifier le sang. C'est vital pour l'architecture même de la vigne, nos protéines.
Ah, on arrive à mes molécules préférées, les acides alpha-aminés. C'est les briques de base de nos protéines.
Voilà. Et elles ont un lien direct avec les protons.
Bah, ce sont des contorsionnistes de la chimie. Accrochés au même carbone, on trouve un groupe carboxyle, COOH, qui veut lâcher un proton, et un groupe amine, NH2, qui veut en capter un. C'est le feu et l'eau dans la même molécule.
Et forcément, en milieu aqueux, la molécule ne peut pas s'empêcher de réagir avec elle-même. Le groupe acide cède son proton, qui saute sur le groupe basique d'à côté.
Le serpent qui se mord la queue. Elle s'auto-neutralise en interne.
C'est ça. On obtient un zwitterion ou amphion. Le groupe acide devient négatif, CO ou moins, et le groupe amine devient positif, NH3+.
Un plus et un moins. Et vu qu'elle a ses deux pôles, elle est amphotère, comme l'eau.
Avec deux pKa distincts, oui. Et au pH sanguin de 7,14, cette forme bipolaire, le zwitterion, qui domine largement.
Et ça, c'est tout sauf un hasard. Quand des milliers d'acides aminés s'assemblent pour faire une enzyme, tous ces petits pôles plus et moins s'attirent et se repoussent.
Comme des milliers de petits aimants, c'est ce qui force la protéine à se replier en 3D d'une manière ultra précise.
L'origami biologique parfait. Mais si le pH du sang changeait, on franchirait les pKa?
Les charges électriques des aimants changeraient. La protéine se déplierait. C'est la dénaturation.
Les enzymes ne marcheraient plus. C'est pour ça que notre corps lutte autant pour garder son équilibre acido-basique.
Tout à fait. C'est une lutte de chaque seconde.
Ouais. Quel vertige. Quand on y pense, on est parti d'une petite histoire d'électronégativité de Pauling.
La liaison fragile.
Ouais. On a vu cette fragilité créer le proton, l'arme du vinaigrier. On a vu le log du pH quantifier tout ça. Le pKa changer la couleur des fleurs et dissoudre les coquillages. Et on a fini dans notre propre sang, où l'hémoglobine et les poumons se battent pour protéger la structure de nos acides aminés.
Il y a un dénominateur commun à toutes ces échelles. Un acteur unique, le transfert de ce minuscule proton H+.
Et ça m'amène à une pensée assez folle pour conclure. On voit toujours l'évolution des espèces comme une adaptation au climat, aux prédateurs. Mais quand on voit que nos cellules, nos protéines et même les coquilles dans l'océan, tout est suspendu à des équilibres mathématiques de pKa ultra fragiles, on peut se demander si l'évolution du vivant, au fond, c'est pas juste une immense stratégie pour gérer une seule particule.
La domestication de l'élément le plus simple de l'univers, quoi.
Exactement. Une machinerie biologique folle juste pour dompter un simple proton. Impressionnant, non? En tout cas, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de la chimie. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous croisez une fourmi, pensez au pKa.